fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé. Moitié
dans mon cœur. Et bonsoir.
Bonsoir. Alors, nous sommes donc au Canu Info du lundi sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et on commence donc aujourd'hui à l'international, d'abord par la situation insurrectionnelle en Indonésie. On enchaînera ensuite avec un point sur la Grèce et 700 lycées, un gros mouvement de lycéens occupés depuis plusieurs semaines, et on finira par un point sur le démantèlement d'une unité de police au Nigeria.
Et après une petite pause musicale au national, on parlera du budget de la santé qui va baisser. Puis un petit point sur la baisse des impôts de production prévue pour l'année prochaine. On fera ensuite un sujet sur la question des emplois et de leur reconversion. Pour finir, sur la question de la répression dans l'éducation nationale.
Et on terminera donc au local avec un point sur Vinci qui teste la reconnaissance faciale à l'aéroport Saint-Exupéry. Et on finira par un dossier
sur l'état de l'hôpital dans le public et dans le privé. Et on commence tout de suite.
On commence tout de suite par les brèves. Donc, les brèves, alors, aujourd'hui, elles seront relativement courtes. On commence tout de suite aux États-Unis avec, 13 hommes qui ont été interpellés et inculpés par le FBI et qui ont pour projet d'enlever la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer. 7 d'entre eux font partie de la milice d'extrême droite, les Wolverine Watchmen, ultranationalistes, pro-Trump et hyper défenseurs du deuxième amendement des United States of America sur le port d'armes dans l'espace public. Les 5 autres font partie d'un groupe qui s'appelle Proud Boys, masculinistes, antiféministes, racistes, et organisent de nombreuses manifestations contre les Black Lives Matter. Nos joyeux lurons envisageaient donc de kidnapper la gouverneure démocrate avant les élections du 3 novembre pour la juger pour trahison, et d'ailleurs, ils comptaient également prendre d'assaut par les armes les pouvoirs exécutifs et législatifs de l'État du Michigan. Sympa, les pro-Trump. Alors, international encore, parce que celle-là, elle fait plaisir. Est-ce que vous avez eu la chance de voir la vidéo la semaine dernière des dockers de Vladivostok en Russie qui balancent leur casque sur leur nouveau patron? Sinon, eh bien, regardez-la, car c'est jouissif. Les dockers, donc, ont lancé un mouvement de grève contre la dégradation de leurs conditions de travail suite à la nomination du dit nouveau patron et pour une augmentation des salaires. Le nouveau patron et ses sbires se sont ramenés pour prendre la parole publiquement devant les travailleurs et ont été accueillis par une pluie diluvienne de casques les empêchant de parler et les forçant à fuir. Conséquence, malgré les menaces, la firme a cédé sur les revendications des dockers. Un exemple de combativité à suivre. France maintenant. Nos amis les fachos et autres réacs ont été actifs ce week-end, puisque la Manif pour tous, qui malheureusement existe encore, manifestait ce samedi partout en France contre notamment l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux célibataires, réaffirmant ainsi leur discours homophobe et transphobes. Dans plusieurs villes, dont Lyon, des contre-rassemblements étaient appelés et ont été souvent bien suivis, même si dans plusieurs cas, comme à Toulouse par exemple, les flics ont laissé défiler les FAF avec Robert Ménard en tête et tenté d'empêcher à plusieurs reprises les cortèges féministes et LGBTQI+, de s'organiser et partir en cortège avec pas moins de 13 camions de CRS. Par la même occasion, le gouvernement donc a montré de quel côté il se rangeait sans surprise. On peut quand même noter, pour finir ces brèves, qu'un texte est en préparation en ce moment à l'Assemblée nationale et au Parlement sur le rallongement de la durée légale d'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines, permettant à certaines femmes, celles en tout cas qui en ont les moyens, qui devaient et qui étaient obligées d'aller se faire avorter à l'étranger, et bien de se faire avorter en France. Mais personne n'oublie que le principal problème en France, et bien ça reste le manque de places disponibles, dû notamment aux nombreuses fermetures des centres ces dernières années, liées aux politiques d'austérité, et que nombre de médecins réactionnaires de la Manif pour tous peut-être sévissent encore et tentent de convaincre les femmes quand ce n'est pas leur famille. Rappelons que l'avortement, et on terminera là-dessus, est un droit fondamental à défendre et que 47 000 femmes dans le monde décèdent chaque année, suite à un avortement illégal, soit une femme toutes les 9 minutes.
Et on passe à l'international.
Si ça veut bien marcher. Donc on passe à l'international, tout de suite.
Avec l'Indonésie.
Ouais.
Alors, jeudi 8 octobre, ont éclaté dans les principales villes d'Indonésie des manifestations contre la loi Omnibus qui a rassemblé plusieurs milliers d'ouvriers, d'étudiants et d'employés. La loi Omnibus, ce n'est pas une loi qui promeut le lobbying des transports en commun, non, c'est beaucoup moins drôle. C'est un ensemble d'amendements qui touchent à l'environnement, la fiscalité, le droit du travail et les normes environnementales. Cette loi, elle a pour objectif très clair de lever les obstacles bureaucratiques afin de rendre le pays plus attractif et donc de favoriser quoi ? Les investissements étrangers. Bon, pour rappel, l'Indonésie, c'est un pays avec une géographie et une histoire quand même très complexe, composé de 14 000 îles, rien que ça, 700 langues locales, 300 groupes ethniques, le pays a été colonisé par la Compagnie des Indes orientales néerlandaises jusqu'en 1945. Ensuite, l'indépendance a été proclamée autour d'une idéologie d'État fondée sur les 5 principes du monothéisme, de l'humanisme, de l'unité nationale, de la démocratie et de la justice sociale. Puis le pays a connu 20 ans de soi-disant démocratie dirigée, puis à nouveau 20 ans de régime autoritaire anticommuniste, jusqu'aux émeutes de Jakarta en 1998, qui ont renversé la dictature de Suharto, qui, rappelons-le en passant, a assassiné entre 1965 et 1966 près d'un demi-million de communistes, 500 000. C'est un des plus grands massacres dont on parle jamais. Bon, bref, depuis 1998, l'Indonésie se dirige donc vers une démocratie présidentielle libérale qui louvoie entre les écueils du nationalisme radical, de la corruption généralisée et d'un islamisme autoritaire qui a culminé avec les attentats de Bali en 2002. Plus précisément, le contexte politique dans lequel s'inscrivent les révoltes en cours, c'est la réélection le 17 avril 2019 du président sortant Joko Widodo, dit Jokowi. Le bilan de son premier mandat, entre 2014 et 2019, est plus que mitigé. D'un côté, il faut bien l'admettre, il a œuvré à certaines avancées sociales, avec l'adoption d'un salaire minimum, l'encouragement du microcrédit, la généralisation d'un système de sécurité sociale, mais surtout, c'est ce qui a fait sa popularité, la suppression des subventions au carburant qui avantageaient les plus riches. Mais d'un autre côté, le tableau est beaucoup moins joli, puisque alors qu'il se représentait lui-même comme le candidat réformiste qui rompait avec le système de l'oligarchie politico-militaire, il a malgré tout lâché pas mal de concessions aux gros groupes et aux multinationales. Et parmi les éléments qui ont déclenché la colère sociale, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'il a assumé, de fait, une économie ultralibérale qui servait les intérêts de l'oligarchie nationale, qui s'accapare les profits du pays depuis 15 ans de croissance. Dans cette politique libérale, on peut citer par exemple le choix de travaux entamés à Jakarta, la capitale, pour rendre la capitale plus attractive et concurrentielle. Et ces travaux, ils ont entraîné l'expulsion des couches les plus populaires et la disparition des kampungs, c'est une sorte de village solidaire où les travailleurs précaires habitaient. Ce qui a aussi suscité beaucoup de débats et de contestations, c'est le méga-projet de la construction de 17 îles artificielles de luxe dans la paix de Jakarta pour les ultra-riches. Bon, en même temps qu'il prend ses décisions, faut pas oublier que les ouvriers des grandes entreprises sous-traitantes des multinationales comme Gap ou comme Nike, eh ben, ils travaillent pour un salaire de misère, dans des conditions lamentables, et la moitié de la population en Indonésie travaille dans le secteur informel où règne la surexploitation et l'absence du droit de travail. Ensuite, il a été mis sous pression par l'armée et par conséquence, il n'a pas du tout mis fin à la corruption généralisée, en particulier chez les parlementaires, les policiers et les magistrats. Enfin, dans un contexte un peu particulier, il n'a rien fait contre la répression en Papouasie occidentale par l'armée qui, là-bas, tue et viole en toute impunité. D'ailleurs, le traitement colonial en Papouasie par l'Indonésie avait déjà suscité de grosses émeutes en 2019. Depuis la crise sanitaire, il y a eu quand même 6 millions de chômeurs supplémentaires, en plus des 7 millions déjà existants. Et en Indonésie, les 4 hommes les plus riches, ils sont plus riches que 40% de la population. Alors, il faut bien dire que quand la loi Omnibus a été rendue publique, il était clair que, malgré sa réélection, le président Jadawi se situait du côté des patrons, des investisseurs et des conglomérats. C'est ce qu'ont prouvé les mesures antisociales de cette loi Omnibus qui prévoit, entre autres, la diminution des congés payés, la suppression d'un jour de repos, l'annulation du droit de recours en cas de licenciement abusif, l'augmentation des heures supplémentaires jusqu'à 18 heures et j'en passe. Même Amnesty International, qui est pourtant pas très révolutionnaire, a qualifié la loi de catastrophique, c'est pour dire. En riposte donc les plus grosses manifs et les plus grosses émeutes depuis 1998. En face, la répression a été dure et violente, plus d'un millier d'interpellations, 13 000 flics déployés dans la capitale pour empêcher les manifestants d'atteindre le palais présidentiel. Mais jeudi 8, les manifestants ont réussi à franchir le barrage, les affrontements ont été violents, ils ont détruit des bâtiments gouvernementaux et ils ont mis le feu à la plupart des postes de police de la ville. Dans d'autres pays aussi de la province et du pays, les manifestants ont dirigé leur colère également contre les parlements locaux. Le mouvement est donc en train de prendre une forme clairement insurrectionnelle, alors force à ceux et celles qui luttent pour plus de justice sociale en Indonésie.
Et on enchaîne tout de suite donc avec un sujet sur la Grèce, puisque c'est bizarre, il faut vraiment zoner sur des sites d'extrême gauche, et probablement un peu sur des réseaux sociaux, pour en entendre parler. 700 lycées grecs sur 3000 sont aujourd'hui bloqués, alors qu'un mouvement dure depuis 3 semaines au moins et qu'il touche aujourd'hui 35 villes du pays contre le gouvernement et la situation sanitaire et budgétaire catastrophique des établissements accueillant les lycéens. Aucun média international n'en parle, aucun média mainstream en France n'en parle, alors que c'est un mouvement d'ampleur qui n'en finit plus de gonfler. Alors, nous on en parle. Résumé donc. L'année dernière en Grèce, la droite de la tristement nommée Nouvelle Démocratie revient au pouvoir avec en chef de file Kyriakos Mitsotakis après 4 ans et demi d'alternance social-démocrate menée par Tsipras et son parti Syriza, sorte d'équivalent de la France Insoumise, qui a montré dès son deuxième mois au pouvoir sa soumission la plus totale et donc son acceptation la plus totale des injonctions de la Troïka menée par le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne. Continuant ainsi les politiques d'austérité drastiques qu'a subi la Grèce depuis 2008. Sorte de continuité donc entre le PASOK, Syriza et la Nouvelle Démocratie. Privatisation massive, suppression de postes, baisse des budgets, fermeture d'hôpitaux et d'écoles et maltraitance des migrants bien sûr. Bref, l'austérité dans toute sa splendeur, ou plutôt toute son horreur. Tout commence donc il y a 3 semaines dans 2 villes moyennes, grecques, Karditsa et Agrioni, où une dizaine d'établissements sont occupés pour protester contre le retour totalement désorganisé et dangereux dans les classes. Pourquoi ? Le 14 septembre, c'est la rentrée des classes. En une semaine, 59 établissements ont dû fermer à cause de la propagation du virus. À peine quelques jours plus tard, une centaine d'établissements ont été bloqués par les lycéens eux-mêmes comme une traînée de poudre, puisque les syndicats ne font rien. S'en sont suivies des dizaines de manifestations, regroupant des dizaines, là également, de milliers de lycéens, rejoints par des professeurs, des enseignants, des étudiants. D'autres secteurs ont également voulu montrer leur solidarité. Fin septembre, par exemple, une grève de 24 heures dans le port de Pirée, près d'Athènes, a interrompu tout le trafic. Début octobre, pendant 3 jours, la société privée d'aviation Olympic Air a été contrainte par la grève d'annuler 58 vols intérieurs entre Athènes et plusieurs îles grecques. La semaine dernière, étudiants, lycéens, enseignants, parents ont massivement défilé à Athènes et Thessalonique critiquant à la fois les politiques d'immunité collective prônées par le gouvernement contre le Covid, mais aussi le renforcement militaire contre la Turquie, mené par le gouvernement de Mitsotakis, soutenu par la France, avec par exemple, en prévision, 16 avions Rafale achetés par la Grèce à la France à hauteur de 4 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros donc pour préparer une guerre contre la Turquie éventuelle, que lycéens et étudiants réunis à Athènes début octobre et qui représentaient pas moins de 180 établissements, eh bien, ont comparé au budget qu'il manque pour l'éducation nationale, pour embaucher 300 000 enseignants en CDI, réduisant ainsi les classes à 15 élèves, permettant d'embaucher du personnel sanitaire, et du matériel adéquat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le gouvernement a quand même distribué des masques dans les établissements pour les élèves, mais ils ont rapidement été appelés les masques parachutes. Pourquoi ? 10 cm sur 18 cm pour les moins de 10 ans, 12 cm sur 22 cm pour les plus âgés et les enseignants, eh bien ça couvre l'intégralité du visage, dont les yeux, et les yeux, a priori pour voir, c'est mieux quand même. Alors voilà, ce mouvement est loin de s'arrêter puisqu'on est à 700 établissements bloqués et en lutte. La seule réponse du gouvernement pour l'instant, au-delà de ces masques qui couvrent l'entièreté du visage, c'est la fermeté, la répression. Dans la rue et dans les manifestations d'une part, et ça il y a plein de vidéos qui le montrent malgré tout, la répression des anti-émeutes grecques notamment, et dans les établissements en menaçant les élèves de renvoi ou de redoublement. C'est un peu ce qui se passe en France quand il y a des mouvements lycéens, ils ont les mêmes techniques. Mais malheureusement pour le gouvernement, depuis 3 semaines, ce mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur et nous, on va suivre ça de près.
Une fois n'est pas coutume, parlons d'une petite victoire contre les violences policières.
Oui, puisque le Nigeria vient de démanteler le SARS. Alors que les choses soient claires, le SARS, c'est bien l'ancien nom du Covid-19. Il s'appelait bien SARS-CoV-2 avant, vous vous en souvenez. Mais là, je ne suis pas en train de vous annoncer que le Nigeria a éradiqué le coronavirus de son territoire. Le SARS, c'est aussi l'acronyme de la Special Anti-Robbery Squad, ou Brigade de répression des vols en français. C'est une unité qui existe depuis 1992 et qui est spécialisée dans la répression des vols à main armée, vols de voitures, kidnapping et tous les crimes associés à des armes à feu. Eh bien, cette unité vient d'être démantelée après une dizaine de jours de mobilisation des Nigérians. C'est un scénario qui vous rappellera sûrement quelque chose. La mobilisation s'est déclenchée après la publication d'une vidéo dénonçant la mort d'un homme sous les balles de cette brigade le samedi 3 octobre dernier. Cette vidéo est devenue virale et elle a surtout relancé une revendication vieille de plusieurs années, mais qui n'avait pas encore pris une telle ampleur. C'est donc celle du démantèlement du SARS. Avec cette vidéo, ce sont des milliers d'autres récits qui se sont retrouvés sur Internet, notamment sur Twitter, et tous ces témoignages font apparaître que la brigade est coupable de tout ce dont elle est censée empêcher. Exécution sommaire, racket à main armée, arrestation arbitraire, viol, arrestation et détention illégale, humiliation et beaucoup de torture. Tout ça est documenté depuis 2014 par Amnesty International qui rapporte notamment, et entre autres actes de torture, la pratique de la simulation de noyade qui consiste à verser de l'eau sur un tissu qui recouvre le visage d'une personne immobilisée, l'empêchant donc de respirer. Au témoignage numérique s'est succédé la rue. Jeudi dernier, une manifestation avec du faux sang s'est terminée devant le quartier général de la police d'Abuja, la capitale fédérale. Samedi dernier, c'était de gros rassemblements un peu partout dans le pays et aussi à l'international, notamment à Londres. Et le gouvernement semble avoir eu un peu peur de cette mobilisation, puisqu'après avoir d'abord annoncé réduire partiellement le champ d'action du SARS, il a fini par annoncer hier, dimanche 11 octobre, la dissolution de l'unité. Et cela au prix de 5 morts tués par la police lors des manifestations. Alors ça pourrait ressembler à un happy ending, malheureusement les vraies victoires, on n'en a pas assez l'occasion d'en annoncer. Et le gouvernement nigérian, comme ils le font tous partout dans le monde, fait le strict minimum pour calmer un peuple en colère et le strict minimum pour éviter de se mettre lui-même en danger. Il n'est en effet pas prévu qu'il y ait d'enquête ou de poursuite sur les membres de la brigade. Ceux-ci ne vont même pas être renvoyés puisqu'ils vont être affectés à d'autres unités. C'est peut-être dû au fait que les services du SARS étaient apparemment souvent privatisés par des politiques et des hommes d'affaires pour servir leurs intérêts personnels et qu'il serait inquiétant que ces affaires deviennent publiques. Et ce qui est sûr, c'est que cela ne va rien résoudre. Il n'y a pas de raison que des flics habitués au pouvoir et à l'impunité changent alors qu'on les place à nouveau dans une situation de pouvoir et de possible impunité puisque c'est le propre du métier de policier.
Et maintenant, en signe d'encouragement aux révoltes en Indonésie, écoutons le morceau « Émeute » du rappeur Passy.
L'émeute atteint son paroxysme lorsque 15 000 ouvriers tentent de prendre d'assaut le palais du gouvernement.
Ouais. bleu calme, c'est rien, c'est chaud sur l'asphalte, c'est rien, on passe tes barricades, on pète tes barrières, on a la barre, on déraisonne et on craint plus personne, toi ta peine est renfort, la rage de renfort, sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne, insensible aux propagandes, les mecs qui glandent, ceux-ci bandent hélas, et veulent tout péter en bande, comme dans un James Bond ou un Banderas, là t'as pas de télécommande, donc on dicta, en force, en foule des ordres, c'est rien, pour toi on a une corde, c'est rien, tu nous verras à l'antenne, déraciner ton chaîne, on va changer les programmes sur ta première chaîne. La foule a compris et ça n'hésite plus. Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien qui triomphe. L'instinct a fait un triomphe et un cri en fausse. Si l'émeute s'étend, c'est rien, et si c'est inquiétant, ça va pas bien loin. Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées. Et ta citoyenneté, on en a rien à glander. Les gens des halls me comprennent, c'est leur holis que j'aime. Ils disent qu'il y a trop de haine qui coule dans mes veines. Un peuple héroïque, face à un pouvoir égoïque. Un coup de gueule des sous-classes de la République. Ça chante bataille, sur les Champs-Élysées. Le diable vient pisser sur la rue de la paix. On lâche pas le contrôle, c'est rien sur la lisière de l'émeute, subit la haine de la meute. Qu'ils le sentent, c'est rien, si la tension est oppressante, ça va pas bien loin, s'il y a plus de respect, plus de cadet, plus de gradé, et que tous vos conseils, on n'en a rien à péter, on va tout dégrader, avant qu'on va sauter la boulangerie d'à côté, on fout le feu chez le voisin, histoire de se venger, s'il y a des buts cassés, c'est rien, si on vient tout piller, ça va pas bien loin, si le maire s'est sauvé, c'est rien, et même s'il y a l'armée, c'est rien, c'est rien, des pavés, des comas, des hématomes, des blessés, des décès, si ton pays est stressé, s'il y a le feu au village, s'il y a le feu dans la ville, si tu vois saigner les civils, si ça tire dans l'entourage, c'est juste une nuit d'émeute où le diable jubile, deux jours aux infos, après on est tranquille.
Vous êtes toujours sur le Radio Canu du lundi soir, du lundi 12 octobre.
Le Canu Info du lundi.
Oui, sur le Canu Info, mais ça c'est
sur Radio
c'est
Canu. Évident.
Et vous venez d'écouter Émeute de Passy. Bon, c'est pas un morceau super récent.
Bah, chier, non. Tu l'as trouvé il y a pas longtemps, non Allez, et tout de suite, nous passons au...
Au national.
Au national. Ça ne marche pas, mais c'est incroyable. On va jamais y arriver. Pourtant, on essaye. Hein. Et non. Bon. Alors, on passe tout de suite au national avec un sujet sur la baisse des impôts de production prévue pour 2021.
Voilà, c'est un petit point sur le projet de loi finance qui est tout juste sorti de commission et qui est arrivé aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Et alors, outre le fait que, d'abord, l'impôt sur les sociétés continue de baisser, de même que la taxe d'habitation pour les foyers aisés, le point marquant du budget 2021, c'est qu'il prévoit une baisse de 10 milliards d'euros sur les impôts de production. Alors l'impôt de production, c'est vrai que c'est un impôt qui touche indistinctement toutes les entreprises et pas forcément de manière équitable puisqu'il ne prend pas en compte le fait qu'une entreprise puisse faire ou ne pas faire de bénéfices. Le problème, c'est que cette baisse n'est absolument pas dirigée uniquement sur ces entreprises qui ne feraient pas de bénéfices et les entreprises qui en font et qui en font beaucoup vont donc en faire encore plus grâce à cette baisse d'impôt. Il n'est pas non plus question de remplacer cet impôt par une autre taxe proportionnelle aux bénéfices des entreprises. C'est donc un cadeau pur et simple et il n'y a pas de contrepartie.
On dit que c'est pour relancer l'emploi et l'économie, mais il sera tout à fait autorisé de bénéficier de cette baisse d'impôts et de licencier. On sait pourtant que la pauvreté a largement augmenté depuis le confinement. Le Secours populaire déclarait donc que pendant le confinement, 45% des personnes qui avaient reçu leur aide alimentaire l'a touché pour la première fois. Le nombre de bénéficiaires des minima sociaux, dont le RSA, qui est le plus bas d'entre eux, ne cesse d'augmenter. Et pourtant, la priorité du gouvernement ne semble pas d'être de s'assurer que la misère n'augmente pas en France, mais bien de s'assurer que leurs copains continuent de toucher les mêmes bénéfices. On le sait pourtant, ce genre de mesure n'a pas de conséquences sur l'emploi. Souvenez-vous du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui devait lutter contre le chômage et qui a exonéré des entreprises à hauteur de 18 milliards d'euros. Et qui n'a permis la création que de maximum 160 000 emplois. Bref, beaucoup d'argent perdu pour peu de résultats. Donc il faudrait peut-être mieux donner directement l'argent à ceux qui en ont besoin, au lieu d'essayer d'influer sur leurs revenus de façon aussi tordue.
Et on enchaîne tout de suite avec un sujet dans le secteur de l'aéronautique, entre sauvegarde des emplois et reconversion.
Et oui, parce que si le transport aérien représente le principal vecteur de la diffusion mondiale du Covid-19, c'est aussi l'un des secteurs qui a été le plus affecté par la pandémie en raison des restrictions mondiales de déplacement notamment. Et l'Association internationale du transport aérien a chiffré la semaine dernière les pertes de l'industrie mondiale à près de 72 milliards d'euros rien que pour cette année, à cause d'une chute de 68% du trafic aérien. Alors c'est une chute qui a avant tout des conséquences sur les emplois, alors que le secteur de l'aviation et de l'aéronautique concerne plus de 300 000 emplois en France, et que l'économie de certaines régions, comme l'Occitanie, qui concentre la moitié de la production française, dépendent très fortement de lui. Et ainsi, près de 26 plans sociaux qui concernent rien que ce secteur. Et la compagnie Air France, par exemple, a annoncé la suppression de plus de 7 500 postes d'ici à la fin 2022. Et les plus petites entreprises sont elles aussi touchées, puisque par exemple dans la Vienne, la société McAfee, qui produit des pièces pour l'aéronautique, va se séparer de la moitié de son effectif, ce qui concerne quand même 250 travailleurs. Alors pour faire face à cette crise, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé le 9 juin dernier un plan de soutien pour la filière aéronautique qui n'est conditionné à aucune obligation de sauvegarde d'emploi, un véritable chèque en blanc donc, et un sacré chèque d'ailleurs puisqu'il s'élève quand même à 15 milliards d'euros. Pour verdir le transport aérien qui est quand même responsable de 7,3% de l'empreinte carbone de la France, le gouvernement mise sur les agro-carburants dont on connaît déjà les travers en termes d'expropriation des terres des pays anciennement colonisés, et sur un marché de compensation des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est en fait une manière de financiariser la nature et de permettre aux entreprises de continuer à polluer toujours plus. La question du démantèlement de ce secteur économique et de la reconversion de ces travailleurs n'est évidemment posée ni par le gouvernement ni par le patronat, et très peu également par les syndicats qui restent sur une ligne avant tout de défense de l'emploi. Ainsi, Fabrice Michaud, qui est secrétaire général de la CGT Transport, affirme « Pour l'instant, la priorité des salariés du secteur de l'aérien est avant tout de sauver leur emploi face au plan de restructuration. » Mais quand même, au cœur même du secteur, des nouvelles voix se font entendre. Et par exemple, en mai dernier, il y avait des étudiants du secteur de l'aéronautique qui publiaient une tribune appelant à une profonde transformation de notre industrie qui passerait notamment par une réduction drastique du trafic aérien. Et plus récemment, des salariés de l'aéronautique à Toulouse, Bordeaux ou Paris ont créé un collectif intitulé ICAR, qui a pour but de fédérer les salariés et les ouvriers qui souhaitent participer à des réflexions et des actions autour de la conversion professionnelle et le transfert des compétences en se fondant sur leur expertise ouvrière et professionnelle. Alors pour leur donner un peu d'inspiration, il y a des exemples de mobilisations similaires qui ont lieu dans le passé. Par exemple, en Angleterre, dans les années 70, le groupe Lucas Aerospace, qui était l'un des principaux constructeurs européens de composants destinés à l'aviation civile, mais surtout militaire, avait annoncé un plan de licenciement. Et les employés, pour s'y opposer, avaient proposé à leur direction un contre-plan de production et une liste de 150 produits pour réorienter leur activité. Plutôt que de fabriquer des avions et des missiles, ils soumettaient ainsi l'idée de créer des produits socialement utiles. Pour cela, leur stratégie s'articulait autour de 5 idées fortes. 1. Faire pression sur le gouvernement. 2. Sensibiliser l'opinion publique et nouer des liens avec les universités, les instituts polytechniques, les communes et des associations de consommateurs et de quartiers. 3. Gagner l'appui du mouvement syndical britannique. 4. Encourager d'autres travailleurs confrontés à des plans de licenciement à préparer des stratégies similaires de contre-plan. 5. Mettre en place un rapport de force au sein des usines avec occupation et grève pour obliger les patrons à prendre en compte leurs intérêts les intérêts des travailleurs. Et donc les revendications n'ont pas toutes été prises en compte, mais les plans de licenciement ont été annulés. Et donc on voit bien que face à la crise de l'aéronautique, l'enjeu est de construire une vraie alternative au chômage grâce à une stratégie offensive qui lie la sécurité de l'emploi à la satisfaction des besoins de la société et qui remette en cause les fonctionnements productivistes et capitalistes de notre économie.
Et pour continuer, un sujet sur la répression dans l'éducation nationale.
Et ouais, dans l'éducation nationale, restrictions budgétaires et gestion autoritaire semblent faire bon ménage. En effet, quatre enseignantes d'un même lycée, à Mel, dans les Deux-Sèvres, sont suspendues depuis 6 mois, oui j'ai bien dit 6 mois, pour leur engagement syndical à Sud Éducation. Ainsi, à la suite des mobilisations de l'hiver dernier contre les réformes des retraites et surtout celles du bac, les quatre profs en question sont convoqués à Poitiers cette semaine devant plusieurs conseils de discipline. Aujourd'hui s'ouvrira le premier d'entre eux et la solidarité s'étend avec celles qu'on appelle déjà les 4 de Mel. Mais que peuvent-elles bien avoir fait pour obtenir tant de sanctions? Est-ce qu'elles ont posé une bombe? Est-ce qu'elles ont formé des enfants soldats pour défendre leur cause? Bah non, pas du tout. Elles ont juste perturbé les E3C. Vous savez les E3C, ces nouvelles épreuves continues du bac qui nous a pondu Jean-Michel Blanquer. Bah, il faut croire que le sujet était particulièrement sensible puisque la répression est disproportionnée. C'était 40 gendarmes qui étaient venus sécuriser le maintien des épreuves dans ce lycée. Un étage entier avait été complètement barricadé, les alarmes incendies avaient été désactivées et les salles où devaient composer les élèves fermées à clé. Bim ! Pour couronner le tout, depuis début mars, les 4 de Mel ont interdiction d'approcher de leur lycée ainsi que d'entrer en contact avec élèves et professeurs. Malgré les rassemblements devant le rectorat cet été et les pétitions qui avaient été signées pour demander l'annulation des sanctions, la procédure disciplinaire se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Désormais, le soutien s'organise à l'échelle nationale et intersectorielle. Donc c'est plutôt encourageant. Cet après-midi, par exemple, c'était un millier d'enseignants et de militants qui sont devenus devant le rectorat de Poitiers pour soutenir leurs collègues et dénoncer la criminalisation de l'action collective. Parce que c'est de ça dont il s'agit, intimider en réprimant pour l'exemple. Alors que les réformes promues depuis 2018 sont de plus en plus inégalitaires et que le cadre de l'éducation nationale, enfin les cadres, assument de plus en plus une posture managériale, les luttes sont de plus en plus réprimées. C'est ça la vérité. Et le tableau est plutôt noir hein, en cette rentrée 2020. Sous-effectifs, manque de moyens matériels, absence de consignes claires, contradictions dans les mesures annoncées, etc., etc. Tout ça confirme le mépris du gouvernement pour les enseignants. À travers la confusion de consignes algorithmiques qui sont mêlées à des mots d'ordre vagues, des mots d'ordre qui viennent des neurosciences, Blanquer applique remarquablement le projet macronien qui consiste à transformer les élèves en bons candidats flexibles sur le marché du travail. Et à transformer aussi, par la même occasion, l'école en antichambre pour le recrutement en entreprise. Bref, à nous de faire en sorte qu'il ne parvienne pas à terminer sa mission de destruction programmée de l'école publique et gratuite.
Et on finit le national avec le budget de la santé.
Oui, puisque ces petits filous du gouvernement, on en reparlera tout à l'heure, eh ben ils ont failli nous avoir, nous les usagers, usagères, et surtout les personnels de la santé, en revendiquant, suite à ce superbe engagement qui a été le Ségur de la santé, une augmentation du budget pour 2021. Eh ben figurez-vous, que c'est en fait un effet d'annonce en grande partie. Mais me direz-vous, mercredi dernier, Olivier Véran a pourtant présenté son projet de loi de finances de la sécurité sociale. Projet de loi qui indique pourtant au sujet de l'ONDAM, donc l'ONDAM c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, que je cite « hors dépenses exceptionnelles attachées à la Covid, cela correspond à une progression structurelle inédite de 6%. » Oui, mais voilà, il existe des syndicats dans le secteur de la santé et des collectifs de soignants également et de soignantes à qui on ne l'a fait pas. En réalité, ce projet de loi prévoit de nouvelles coupes budgétaires imposées au fonctionnement des hôpitaux. C'est d'ailleurs ce journal de gauchiste, j'ai nommé Marianne, qui a en premier expliqué la supercherie. Le projet de loi pour le financement de la sécurité prévoit en fait bien 900 millions d'économies dans les hôpitaux pour 2021. En gros, comme l'explique un professeur d'économie, on avait besoin d'un prof d'économie pour soutenir nos propos, de l'université Paris-Dauphine, je cite « C'est comme si cette année il y avait deux couloirs séparés pour préparer l'ONDAM. Un tuyau pour financer les décisions du Ségur et un tuyau habituel où il faut rogner 1 milliard d'euros. Dit autrement, ce sont les hôpitaux qui vont devoir encore réduire leurs dépenses de fonctionnement pour financer le Ségur. » Bon. Je m'arrête là puisque tout à l'heure, on a une interview avec deux personnes, notamment un syndiqué de Sud Santé Sociale, des HCL de Lyon et d'ADAPI 69.
Bel effet d'annonce. Maintenant, avant de passer au local, une petite pause musicale avec la rappeuse Lauryn Hill et son morceau Once.
It's funny how money changes situations. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station.
wanna play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. Like Ting Don Major, King Don Juan Ron. To understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run for me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you want ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gonna scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some. With a sight to behold, wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play in the sin. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. Then how many paths and you must choose one. And if you don't change then the rain soon comes. See, you might win some but you just lost one. You might win some but you just lost one. You might win some but you just lost one. You might win some but you just lost one. You might win some but you just lost one.
You might win some but you really lost one. You just lost one. It's so silly.
You throw out, come back till you stall. Never underestimate those who you scar. Cause comma, 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 come back till you hard. You can't hold God, people back that long. The chain of shaitan wasn't made that strong. Trying to pretend like your word is your mom. But until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song. And some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn. And from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might. Closely, you'll see what you become. Cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
You might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly. How come when it's all done, did you really gain from?
Toujours sur le Canu Info du lundi soir, il est 19h37 très exactement et vous venez d'écouter un morceau de la rappeuse Lauryn Hill, Once. On passe maintenant au local.
Et tout de suite, on a un sujet donc sur Vinci et qui teste la reconnaissance faciale à l'aéroport de Saint-Exupéry.
Et oui, Lyon et Vinci qui sont toujours à la pointe de l'innovation sécuritaire et du fichage généralisé avec, on l'a appris la semaine dernière, la mise en place de la reconnaissance faciale à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon comme moyen de contrôle avant l'embarquement. Une expérience simple et sûre nous promet Aéroport de Lyon qui justifie cette mise en place par des arguments classiques. La reconnaissance faciale est bien plus pratique puisqu'elle permettrait de gagner, tenez-vous bien, 30 minutes dans le processus de contrôle avant embarquement. La communication insiste donc sur le bien-être des clients et des voyageurs, alors qu'il s'agit surtout de permettre une meilleure gestion des flux, donc une augmentation du trafic aérien, donc du profit des entreprises. Et deuxièmement, il s'agirait d'une mesure sanitaire, puisque le fait de franchir sans contact physique les différents points de contrôle serait un plus en période de Covid. Un argument de circonstance bien sûr fallacieux, puisqu'il s'agit d'un projet de long terme lancé bien avant l'épidémie et qui lui survivra. Ce que dit moins la communication officielle, c'est ce que deviendront ces masses de données une fois aux mains de Vinci. Elle passe aussi sous silence le fait que l'entreprise qui se cache derrière cette technologie, Idemia, a récemment été accusée par Amnesty International de vendre sa technologie à Pékin et donc d'alimenter son système de surveillance de Mars, par exemple celui des Ouïghours dont nous vous parlions justement la semaine dernière. Face aux pétitions et aux plaintes juridiques qui se multiplient face au développement de la reconnaissance faciale, plusieurs entreprises ont annoncé arrêter plus ou moins temporairement cette reconnaissance faciale et les recherches qui la concernent. C'est IBM qui a ouvert le bal la semaine dernière. L'entreprise a ainsi appelé le Congrès américain à établir un dialogue national sur la question. Puis Amazon, Google et Microsoft lui ont emboîté le pas. Ce sont donc les entreprises à l'origine même de l'invention et de la mise au point de la reconnaissance faciale qui la dénoncent. On se fout de notre gueule. Mais ces rétropédalages sur le déploiement de la reconnaissance faciale valident finalement l'utilité de cette technologie. En effet, une fois que l'État aura établi un cadre clair d'utilisation de la reconnaissance faciale, les entreprises auront le champ libre pour déployer leurs outils. Avec cette fausse reculade, les GAFAM cherchent à rendre acceptable la vidéosurveillance automatisée et à rendre ainsi impossible le débat sur son interdiction. Elles font même d'une pierre deux coups. En focalisant le débat sur la reconnaissance faciale, les géants du numérique tentent non seulement de redorer leur image, mais laissent aussi la porte grande ouverte pour déployer d'autres dispositifs de surveillance tout aussi intrusifs, comme des outils de vidéosurveillance automatisés, qui permettent par exemple la reconnaissance de tenues vestimentaires, de démarches, de comportements jugés anormaux. Et il n'y a pas qu'en Chine que ces technologies sont de plus en plus utilisées. À l'image de l'aéroport Saint-Exupéry, les gares et les nœuds de réseau de transport en général servent fréquemment de terrain d'expérimentation. Ainsi, dès 2017, la RATP avait expérimenté à la station Châtelet-Léal des caméras de surveillance dites intelligentes, permettant de détecter des situations anormales. Puis l'épidémie de Covid-19 est donc venue apporter une nouvelle occasion d'accélération de ce déploiement. À Cannes, la mairie a ainsi signé un contrat avec une entreprise française au nom de Data Calab, afin de vérifier le respect des consignes de port de masque et de distanciation sociale grâce à la reconnaissance faciale. Bien évidemment, le consentement des habitantes et des habitants est respecté, puisqu'il était prévu que les personnes qui ne souhaitaient pas donner leur consentement fassent nom de la tête à la caméra.
C'est explicite.
Et il est très probable que ce système testé à l'aéroport de Lyon ne sera pas un simple test, mais devienne à terme la pierre angulaire de tout le système Vinci et d'autres entreprises. Et la reconnaissance faciale qui s'y met en place à l'aéroport, mais aussi ailleurs, n'est donc que la face immergée de l'iceberg sécuritaire de la vidéosurveillance automatisée.
Et donc tout de suite, on enchaîne avec l'interview du jour.
Oui, on revient sur le thème de la santé, de l'hôpital. Et on accueille ce soir deux syndiqués de Sud Santé. Laurent, qui est syndiqué chez Sud Santé Social dans le privé. Et... Chaibia, excuse-moi.
Pas de soucis.
Qui est à Sud Santé dans le public.
À l'hôpital Édouard Herriot. Bonsoir à tous.
Je vous laisse vous présenter.
Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Laurent. Donc je suis secrétaire départemental Sud Santé Sociaux. Je tiens à Sociaux parce que, comme tu l'as dit, je travaille dans le social et plus particulièrement dans le médico-social. Sinon, ma profession, c'est moniteur éducateur et j'interviens dans un établissement qui accueille des enfants handicapés.
Donc, chez IBIA, moi, je suis infirmière de profession à l'hôpital Édouard Herriot et je suis secrétaire de la section de l'hôpital Édouard Herriot, Sud Santé Sociaux.
Peut-être que dans un premier temps, on peut revenir un peu sur les circonstances dramatiques du suicide d'une agente administrative au sein des hospices civils de Lyon. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé et du coup de revenir sur les conditions de travail que ça révèle et peut-être du coup aussi sur les politiques de management qui sont mises en place depuis quelques années dans l'hôpital public?
Alors nous, on a été touchés de plein fouet parce que c'était une adhérente de Santé Sociaux. Donc on a été très choqués par ce geste dramatique. Il y a une enquête qui est en cours, hein, donc on ne va pas trop s'étaler sur les détails, mais effectivement, il y a une lettre qui a été laissée par cet agent, Corinne, la famille m'a permis de dire son prénom, qui met effectivement en lien son geste avec le travail. Donc après, on va laisser la justice faire son travail, mais moi, en tant que déléguée du personnel, ce que je peux dire à mon niveau, c'est qu'effectivement, il y a une façon de gérer les hôpitaux aujourd'hui qui est vraiment très nocive et qui entraîne beaucoup de souffrance au travail. Et on fait beaucoup de mal à l'humain, en fait, en ce moment à l'hôpital, ce qui est très paradoxal.
Peut-être pour compléter un petit peu ce que dit Chaibia et témoigner de ce qui se passe dans le secteur médico-social, on constate les mêmes choses à l'hôpital public que dans le médico-social. Peut-être pour rappeler que on est la particularité qu'on a, enfin la chose similaire qu'il y a entre l'hôpital public et mon secteur médico-social, c'est qu'on est tous les deux budgétés par la sécurité sociale. Et toutes les coupes budgétaires qu'il y a aujourd'hui dans la sécurité sociale ont des conséquences directes sur le management de nos directions qui ne sont au jour d'aujourd'hui que des personnes qui regardent un chiffre comptable. Il faut arriver à l'équilibre. Et du coup, dans le médico-social, par exemple, ça se traduit par des directives qui sont données par les cadres aux professionnels qui, eux, connaissent mieux les résidents qu'ils ont en charge. Et les directeurs disent aux gens comment faire. Et les gens n'ont pas le droit de dire « je ne suis pas d'accord », parce que s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils subissent des pressions de la direction, voire des courriers. Et tout ça crée des situations où les gens sont en souffrance, des gens ne se retrouvent plus dans les valeurs de notre travail. Et ça arrive, quasiment 100% des cas, à des inaptitudes et ensuite des licenciements et des situations qui peuvent conduire à des gestes dramatiques, comme ce qui s'est passé aux HCL.
Et pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Laurent, le budget de la sécurité sociale, donc, il a été publié le 7 octobre par le gouvernement. C'est scandaleux ce qu'ils ont fait en fait, parce qu'ils nous font croire qu'ils ont augmenté l'ONDAM à plus de 7% parce qu'il y a eu le Ségur et patati patata. Et en fait, en parallèle, il y a 1,4 milliard d'euros qui va être économisé sur le dos des hôpitaux. Et la première des économies qui est faite par les patrons, bah, c'est la masse salariale. Donc en fait, on est en nage, en plein délire en fait. C'est que au lieu d'être à un ONDAM d'au moins 10%, en fait, on va encore faire des économies et en fait, on va payer le Ségur. Donc en fait, on paye tout le temps. Et du coup, il n'y aura pas assez de personnel et en fait, on n'en voit jamais le bout. Hein. C'est ça qui entraîne aussi cette souffrance. Et comme disait Laurent, en fait, on est dirigé par des technocrates qui nous donnent des ordres. En fait, moi, j'ai rencontré des directeurs de sites qui ne savaient même pas ce que c'était qu'une salle de soins. Donc en fait, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est dramatique parce que du coup, comme il l'expliquait, on appelle ça les conflits de valeurs. En général, c'est des métiers qu'on fait pour prendre en charge, pour prendre en soin. Et en fait, on n'a plus le temps. Moi, en tant qu'infirmière, un jour, on m'a demandé de me chronométrer, de faire une prise de sang en 3 minutes. Donc je veux bien sur quelqu'un qui a des autoroutes, comme on dit, mais une personne âgée ou quelqu'un déshydraté ou quelqu'un de malade, enfin, c'est pas possible. Donc pour nous, en tout cas, à mon sens, mais je parle en tant que chez Ibia Janssen de Sud Santé Sociaux, c'est un futur France Télécom qui se profile dans les hôpitaux publics. C'est clair et net.
Et est-ce que face à ces conditions qui se dégradent et qui sont de pire en pire, est-ce que vous pouvez faire un petit bilan des mobilisations qu'il y a eu avant la crise, après la crise? Et tu parlais du Ségur de la Santé, est-ce que c'est des promesses en l'air? Est-ce que des promesses ont été tenues? Est-ce que ça a amélioré des choses ou sinon, en fait, est-ce qu'il y a une riposte qui se prépare et dans quelle mesure?
Peut-être juste préciser que dans le privé, et je crois que ça arrive aussi dans le public, dans le privé, il y a eu les ordonnances Macron qui ont fusionné les différentes instances du personnel, le comité d'entreprise, délégué du personnel et ce qu'on appelle le comité d'hygiène, de santé et conditions de travail. Le comité d'hygiène et conditions de travail était une des instances qui avait le pouvoir de voter ce qu'on appelle des expertises danger grave et imminent quand les membres estimaient qu'il y avait une situation dangereuse pour le salarié. Et ça permettait de faire tout un travail de prévention, de mettre en place ce qu'il fallait pour que les choses n'arrivent pas. Aujourd'hui, le fait d'avoir fusionné ces instances ont donné encore moins de pouvoir à ce qu'on appelait le CHSCT, donc la commission, et aujourd'hui qui s'appelle la CSSCT, qui est un comité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'expertise qui est possible d'être votée à ce niveau-là. Il faut les voter ce qu'on appelle le comité social et économique. Mais on voit bien que, au-delà de la politique des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'établissements médico-sociaux, c'est une politique globale qui est mise en place pour mettre à mal, j'ai envie de dire, notre secteur sanitaire, social, médico-social, aussi bien dans le public que dans le privé.
Par rapport aux mobilisations, faut pas oublier que pendant plus d'un an et demi, les urgences ont fait grève. Elles ont reçu 100 euros, pas les autres secteurs. Donc, en fait, ces gouvernements successifs ne font que cliver les gens. Et c'est vrai que si je peux donner un conseil, si je peux me permettre, c'est que faut pas regarder juste autour de soi le petit bout de sa lorgnette, mais faut vraiment travailler en collectif parce qu'ils ne font que diviser. Là, par exemple, le Ségur, le médico-social et le social a complètement été oublié, alors que c'est quand même des gens qui font le même travail que nous. Donc, ils passent leur temps à diviser le personnel. Donc, un an et demi de lutte des urgences. 100 euros, point barre. Ensuite, le Ségur, des mois et des mois de lutte, 183 euros net, alors qu'on entendait 300 euros. On est l'avant-dernier pays au CDE pour les, tout ce qui est soignants, personnel hospitalier. Donc, c'est rien du tout. Ils veulent remettre en question les 35 heures. Donc, ça veut dire travailler plus pour travailler plus. Voilà. Les conditions de travail, ils n'ont pas embauché. On réclamait des lits. Il n'y a pas d'ouverture de lits. Et là, avec le Covid qui revient, moi, je tiens à alerter la population. Il y aura 25% de déprogrammation au niveau des opérations. Même des sociétés savantes de médecins en cardiologie, en cancérologie, ont tiré la sonnette d'alarme. Parce que tout le monde parle que du Covid, mais personne ne parle des gens qui ont des problèmes cardiaques, des gens qui ont des cancers, et ils sont tous en train de mourir à petit feu. Et ça, c'est un scandale d'État, vraiment. Et sur jeudi 15 octobre, il y a une manifestation, j'invite vraiment les gens à venir, parce que l'hôpital public, le médico-social et social, c'est toute la population qui est impactée.
Est-ce que tu peux dire le rendez-vous du 15 octobre ?
Donc c'est 14h, métro sans souci, au siège de l'ADAPI. Après on part cours Albert Thomas et on va à la préfecture où je vais laisser Laurent reprendre la parole. Il y aura une délégation qui sera reçue.
Ouais, il y a une délégation qui sera reçue à la préfecture donc le 14 octobre après la manif. Il y a aussi d'autres associations qui appellent à faire des mobilisations devant leur boîte. C'est le cas de l'ADAPI 69 à 12h30 et aussi à la sauvegarde 69 à 11h30. Pour reprendre, comme disait Chaïbia, les mobilisations, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Et le cadre de la mobilisation, c'est de reprendre l'ensemble des revendications qui avaient déjà lieu au mois de novembre l'année dernière, avec les collectifs inter-urgences, la CGT, collectif inter-hôpitaux, qui ne sont pas qu'une augmentation, enfin une revalorisation salariale. C'était aussi l'augmentation des effectifs, parce qu'on fonctionne, que ce soit à l'hôpital ou alors dans mon secteur, en sous-effectif chronique. Mmh. Mais c'était aussi la réouverture des lits et donner plus de moyens à l'hôpital pour pouvoir fonctionner. Et toutes ces revendications-là, elles sont reprises au niveau de la manif de jeudi.
Je tiens à signaler quand même qu'il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas longtemps, où tu as 57% des infirmiers qui se disent en épuisement professionnel, et tu as à peu près plus de 40% qui veulent faire autre chose. Là, nous, on a une grosse fuite de personnel. En réanimation, les médecins, ils partent. On n'arrive pas à garder les gens, en fait, parce qu'on ne leur donne pas envie de rester. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on ne sait pas où on va, en fait. Hein. On n'a plus les moyens de soigner correctement la population.
On a encore un peu de temps. Est-ce que vous voulez un peu préciser les différentes stratégies de mobilisation qui sont envisagées? Est-ce que vous attendez, j'imagine que oui, bien sûr, le soutien de d'autres secteurs? Qu'est-ce qui est possible selon vous?
À mon sens, la convergence, elle est primordiale. Donc, que ce soit les étudiants, les cheminots, les intermittents du spectacle, les soignants, le personnel hospitalier en règle générale. C'est vrai que je me suis fait engueuler la dernière fois. Les administratifs, on les oublie souvent, mais sans eux, on ne pourrait même pas rentrer et faire des étiquettes à l'hôpital. Sachant qu'ils sont en train de les remplacer par des machines. Donc, une machine, quand on est une personne âgée ou quand on ne parle pas correctement le français, bah c'est compliqué de faire des étiquettes. Donc ils rognent vraiment sur tout. Et à mon avis, ce n'est pas boîte par boîte qu'on y arrivera. Mais ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est une convergence. Et c'est pour ça que j'appelle la population, parce qu'avoir applaudi à 20h pendant plusieurs mois, c'est bien. Mais c'est maintenant qu'il faut sortir dans la rue. Parce que si, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes en danger, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire ce soir.
Pour moi... Je pense qu'un des objectifs de la mobilisation du 15, c'est de faire prendre conscience que tout tourne autour du projet de financement de la sécurité sociale et qu'effectivement, à ce titre-là, toute la population est concernée. Et il faut, à mon avis, essayer de construire une convergence pour la date du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Et je pense que notre fédération sera actrice dans un appel à une montée nationale à Paris.
Est-ce que vous savez quelle est la date à peu près de cette date de vote à l'Assemblée nationale ou pas encore? Pour le moment, c'est un projet de loi. Alors, donc combien de temps il y a pour se mobiliser j'imagine peu de temps alors, avant ce passage à l'Assemblée nationale.
En général, le vote est fait vers la fin novembre, début décembre. Donc ça nous laisse, on va dire, un mois et demi pour arriver à mobiliser
aussi bien dans nos secteurs respectifs qu'au niveau de la population. Peut-être juste au niveau du Ségur de la Santé, rappeler que l'hôpital public a obtenu 183 euros net et qu'au jour d'aujourd'hui, dans le secteur privé, dans le sanitaire privé à but non lucratif, il y a une organisation patronale qu'on appelle Unicancer qui gère tous les centres de lutte contre le cancer, a mis à la signature un accord qui a été signé majoritairement qui dit que tout le personnel non médical percevrait une revalorisation salariale de 237 euros brut. C'est-à-dire qu'on commence déjà à voir que ces 183 euros vont aussi dans certains secteurs au privé sanitaire. La question aussi, c'est de pouvoir mobiliser tous les gens des autres conventions du social et médico-social. Parce qu'en fait, il y a quatre conventions. Il y a le centre de lutte contre le cancer, ce qu'on appelle la CC51, la CC66, c'est des conventions qui régissent le droit dans les établissements qui dépendent de ces conventions. Mais il faudrait élargir cette revalorisation salariale à tous les secteurs concernés.
Et est-ce que vous ne pensez pas, même si ces revalorisations salariales, elles sont absolument indispensables, vu la quantité de travail que vous avez et la complexité de ce travail, est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'ils n'essaient pas, par ce biais-là, d'acheter un tout petit peu la paix sociale, alors qu'en fait, le fondamental du problème, c'est le manque de moyens et le manque de personnel dans les établissements?
Ben, vous voyez juste, parce qu'effectivement, au début, cette revalorisation, elle aurait dû arriver en janvier. Et comme par hasard, elle arrive en septembre, fin septembre, début octobre. Donc, par contre, ils ne calmeront rien du tout, parce que enfin, nous qui sommes bien sur le terrain, les agents, ils n'en peuvent plus. Ils ont beaucoup de mal à recruter. Les vacataires, les retraités, les étudiants, cette fois-ci, ils ne sont pas venus nous aider, parce qu'il y a eu la prime de la discorde. Voilà, donc c'est vrai que les gens, ils commencent à ouvrir les yeux. Je tenais absolument à dire qu'on a, cette année, on fête les 75 ans de la sécurité sociale. J'invite tout le monde à revoir ou à voir La Sociale de Gilles Perret, qui est je trouve que c'est un film vraiment que les jeunes générations devraient voir, parce que ça explique d'où on est parti et que c'est possible de construire un monde solidaire, en fait. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure avec Laurent, la sécurité sociale, le budget, l'ONDAM, c'est un peu abstrait, mais j'invite les gens vraiment à s'y intéresser, parce que c'est la santé, elle n'a pas de prix, et on va finir... Les deux pays les plus pires, pour terminer, par rapport au Covid, c'est la France et les États-Unis. Voilà. Alors, les États-Unis, il n'y a pas de couverture sociale. Et la France, à force de fermer des lits, on a 100 000 lits en 20 ans qui ont été fermés. Et là, on est en train de mettre l'économie à genoux, parce que nos hôpitaux sont à genoux depuis plusieurs années. Voilà. On a 20 000 morts de plus qu'en Allemagne. Le modèle allemand, là, il est quand même assez incroyable à ce niveau-là. On a 5 000, je vais donner quelques chiffres, on a 5 800 lits de réanimation en France, on en a 20 000 en Allemagne. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, vraiment, depuis 92, ils ont vraiment essayé de transformer le public en privé, et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de nous tuer à petit feu, parce que là, par exemple, il y a un truc qui nous met très en colère, c'est en 2021, ils veulent qu'il y ait un forfait pour les urgences. C'est-à-dire que si tu n'es pas hospitalisé, tu payes 18 euros. Mais qui c'est qui va aller payer aujourd'hui 18 euros quand il est au SMIC, quand il est précaire, quand il est âgé? Et puis, moi j'entends, oui, mais comme ça, les gens qui boivent ou les toxicos, ils ne viendront pas engorger les urgences. Mais un petit peu d'humanisme, ces gens-là, ils sont en souffrance. Les hospices civils ont été créés à l'époque pour justement amener à soi les gens qui étaient les plus précaires, les plus pauvres et les plus malades. Donc on ne devient pas toxico-alcoolique par plaisir, il faut arrêter avec ça. Donc cette solidarité, elle commence aussi avec cela. Et puis en plus, réfléchissez un petit peu, ils vont rester dans la rue. Ils vont devenir quoi? Les gens qui ne pourront pas payer ce forfait, leur pathologie, elle va faire que se dégrader encore plus. Donc en gros, ça nous coûtera plus cher, parce qu'une fois qu'ils seront hospitalisés et opérés, ils resteront plus longtemps. Donc en fait, on fait des économies à court terme, et il n'y a aucune réflexion à moyen ou à long terme par ces gouvernements, ce qui est assez hallucinant, vu le prix qu'on les paye.
Peut-être pour compléter...
Et pour terminer, mais vas-y, vas-y. Hein.
La question, est-ce que les employeurs n'achètent pas la paix sociale? Si. Ça fait 2 ans... qu'on voit dans notre secteur des primes distribuées à tour de bras. Des primes avec une redistribution du crédit d'impôt et de taxe sur les salaires qui correspond au CICE qui a été versé aux entreprises. Mmh. Les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat qui en fait la prime gilet jaune. On fonctionne qu'avec des primes et du coup les salariés en oublient de demander des augmentations de salaire, parce que la revendication principale, c'est l'augmentation du salaire de 400 euros.
Eh bien, merci beaucoup, Chaïbia et Laurent, d'être venus.
Merci à vous.
C'était très intéressant. Et on va venir jeudi et on va prendre un peu de son pour raconter la suite lundi prochain.
Merci.
Et du coup, on rappelle le rendez-vous, c'est jeudi 15 octobre à 14h à Métro Sans Souci, devant le siège de la d'Apelli.
Exactement.
75 cours Albert Thomas.
Et le cortège ira jusqu'à la préfecture. Et du coup, tous les soirs de cette semaine, sur toutes les places et dans tous les salons, projection de La Sociale de Gilles Perret.
Chez vous. Génial.
Et on finit par notre traditionnel agenda. On vient de l'entamer déjà avec donc le 15 octobre. Donc, on a demain... les travailleurs et travailleuses du BTP qui appellent à s'organiser et lutter de 16h à 19h quelque part permanence syndicale à Lyon, Givors et Tarare. Donc ce sont les syndicats locaux de la construction, du bois et de l'ameublement de la CGT qui appellent à s'organiser, à lutter. Il y avait des histoires de bistrot, mais il n'y en a plus car c'est fermé. Donc on finit par mercredi 14, rassemblement à 14h30 au rectorat contre la précarité et l'exploitation des assistants d'éducation, appelés par l'intersyndicale. Et on finira par le samedi 17 octobre, soirée trajectoire à la MJC Villeurbanne, trajectoire croisée entre un certain nombre de personnes sur les migrations. Voilà.
On s'arrêtera là et puis on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonsoir.